pense que vous avez bûché pendant les vacances, certainement, mais peut-être un peu aussi oublié les choses que nous avions pu dire. Vous rappelez qu'on avait fait une première séance pour aborder le sujet. Alors, je repasse sur nos petites règles que vous connaissez toutes et tous. Et je vous précise que j'ai remis au début de ce diaporama-là, que vous avez donc retrouvé sur document que nous venons d'intégrer sur la clé USB qui sera bientôt disponible sur Internet, vous allez retrouver ce que nous avions évoqué la dernière fois, mais avec les compléments ou les modifications qu'on a pu faire. Hein. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé, on avait essayé de trouver des définitions. Qu'est-ce que ça veut dire que conserver? On avait, vous rappelez, travaillé autour de ces notions-là. Quelques éléments ont été, encore une fois, précisés, etc. Je l'ai donc intégré à cette version. Puis on avait également regardé ce que c'était que l'acte de restaurer. Et là aussi, j'ai mis à jour, si vous voulez, cette petite fiche-là. Vous retrouverez donc ça au début de cette deuxième séance sur vos ordinateurs préférés. Vous vous rappelez qu'on avait également, la fois dernière, travaillé, d'ailleurs tout à fait en début de séance, pour voir ce que c'était que le patrimoine culturel. En gros, qu'est-ce qu'on restaure? Et j'ai fait là un peu le résumé de ce que l'on avait évoqué. Je vous le redis vraiment de manière rapide, mais ça nous permettra de nous mettre dans le bain. Hein. Après trois semaines d'allusion, une fois, c'est bien de se replonger dans les affaires. Vous vous rappelez qu'on a dit que le patrimoine culturel, c'était des éléments matériels ou immatériels, hein, créés par l'homme. Des objets, des œuvres, des bâtiments, mais aussi des activités, hein, musique, littérature, que sais-je encore, que c'était des éléments transmis par les périodes antérieures à la nôtre, mais plus ou moins éloignées. Après tout, le patrimoine, c'est des choses qui ont été faites il y a deux jours, comme des choses qui ont été faites il y a 4 millions d'années. Hein. De la même manière, il y a des éléments dotés d'une le patrimoine correspond à des éléments dotés d'une certaine unicité, d'une rareté, d'une valeur, qu'elle soit symbolique ou pas, sont des témoignages de mémoire. Le patrimoine culturel, c'est également un bien commun qui participe de l'intérêt général et doit être préservé, étudié, transmis, mis en valeur. Et nous avions enfin noté qu'il existait aussi un patrimoine naturel, alors qui ne fait pas l'objet de nos séances, hein, mais enfin, on l'avait évoqué, donc je l'ai mis en nota bene à la fin de cette petite liste. Voilà, je voulais vous redire ça parce qu'on en a beaucoup parlé la dernière fois et qu'il me paraissait important de le restituer. Vous le trouverez. Voilà. Alors, on va aborder le vif du sujet avec cette séance. Je vous propose qu'aujourd'hui, nous parlions sculpture. C'est la sculpture qui est l'objet de la séance de ce jour. Et pour commencer, pour nous mettre en jambes, je vous propose de regarder plusieurs sculptures en bois. Et j'aimerais que vous mettiez dans la position de restaurateur. Maintenant, vous savez ce que c'est que conserver, que restaurer. On en a parlé la dernière fois. Donc, vous savez ce dont il s'agit. Alors, maintenant que vous êtes tous conservateurs, restaurateurs, vous savez que c'est comme ça que l'on appelle les gens qui s'occupent de restauration. Les professionnels qui s'appellent de restauration, on les appelle des conservateurs, restaurateurs. Précisément parce qu'ils font les deux actions qu'on a identifiées la dernière fois, la conservation et la restauration. Donc vous êtes des conservateurs. Très bien. Vous êtes des conservateurs restaurateurs et vous voyez arriver dans votre atelier des sculptures en bois que je vais vous montrer. À vous de me dire ce que vous allez en faire. Alors je vous montre les sculptures en bois en question et on va voir ce que nous faisons de ces sculptures en bois. On va les regarder d'abord une première fois et je les repasserai évidemment après. Je vous les montre un peu rapidement. Tout ça arrive dans votre atelier, vous allez devoir y faire face. Je crois que c'est la fin. Voilà. On les reverra, hein. Voilà. Alors, d'abord, on va à chaque fois commencer par le début. Quel est... Vous vous rappelez des listes que nous avons faites la dernière fois, la toute première chose à faire quand un conservateur-restaurateur voit arriver, par exemple, ça, dans son atelier. La chose première, l'élément de base, c'est quoi?
Éviter que ça se dégrade.
Oui, alors il y a peut-être même quelque chose encore avant.
Faire la fiche.
Voilà, c'est ça. Savoir à quoi on a affaire, effectivement. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ça, hein. Alors, bah, justement, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette sculpture que vous avez sous les yeux? C'est quoi?
probablement Sainte Anne et la Vierge, Sainte Anne apprenant à lire à sa fille.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation de la Vierge. Hein. Vous avez à gauche Sainte Anne et à droite la Vierge, enfant, et Sainte Anne aide sa fille à lire. Très bien. Le matériau, en tout cas générique, vous le savez, hein. C'est du bois, ok. Bois.
C'est tout. Mais est-ce qu'il est doré? Est-ce qu'il... On ne voit pas là.
Est-ce qu'il est peint? Il est un peu peint. Hein. On voit notamment là des quoi? Oui, de la polychromie, mais c'est complètement peint. Enfin, je veux dire, c'est impeccable. Voilà, des vestiges. Hein. Voilà des vestiges de polychromie. Parce que là, par exemple. Non, on ne voit rien. Hein. Alors voilà, il n'y a plus rien. Ce qui veut dire que. Voilà, il y a peut-être eu. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a plus rien qu'il y a rien
une couche de base. Même pas une couche de base.
On la voit pas trop. Alors on devine quand même des éléments un peu blanchâtres par endroits, hein, qui pourraient être les restes de, par exemple, d'un bol, hein, oui. Ou en tout cas d'une sous-couche, on va dire, hein, d'une sous-couche, soit de peinture, soit de dorure. Mais on voit pas grand-chose. Là, on devine un peu des vestiges, hein, vous le disiez, de peinture. Bien. Vous avez une idée peut-être de la période qui serait celle de cette sculpture? Vous dateriez ça à une année, je ne vous rends pas une date précise, bien sûr, mais de quel moment, à peu près? XIVe, Moyen-Âge? Ouais. Ouais, tout le monde est OK avec ça? Oui, donc une sculpture du Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge. C'est sans doute un peu plus tardif. Hein.
Oui, parce qu'elle est quand même bien travaillée.
Le col de la Vierge.
Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que ce genre de thématique, l'éducation de la Vierge, est une thématique qu'on voit très souvent au Moyen-Âge. Hein. Au XIVe et au XVe siècle, vous allez au musée de Mans, vous avez au musée de Mans un superbe groupe en bois du XVe siècle figurant l'éducation de la Vierge. Hein. Je ne suis pas d'aller loin. Hein. Bien. Donc, c'est un thème très, très fréquent au Moyen-Âge. Simplement, ce que vous voyez là, et bien ce que vous voyez là, est sans doute plus tardive. On doit pouvoir la dater à peu près de la deuxième moitié du XVIIe siècle, par exemple, du XVIIIe. Ah oui, oui, c'est carrément plus tardif. Ouais. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un thème que l'on voit anciennement. Hein. Bien.
Ça fait de taille.
Ça, alors, j'ai pas la taille précise, mais on le devine un peu par rapport à ce que vous voyez derrière. Par exemple, vous voyez derrière les pieds d'un Christ en croix. Hein, vous voyez également ce qui est peut-être un décor à l'arrière. Je pense que ça fait 60 cm de haut, oui, quelque chose dans ce coup-là. Hein. Bien. Vous voulez peut-être proposer le traitement que vous feriez. Encore une fois, vous êtes un conservateur-restaurateur, vous avez vu arriver ça, vous avez fait votre fiche, éventuellement d'ailleurs en vous aidant de ce que les gens qui vous ont emmené la pièce ont fait. Hein. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites?
On regarde d'abord s'il n'y a pas des attaques d'insectes, voilà, et de l'humidité.
Voilà. Effectivement, donc on commence. Comment est-ce qu'on avait appelé la dernière fois cette phase-là? Cette phase de... Pardon?
Oui. Non, mais conservation préventive, oui. Aussi.
C'est ça, voilà. Hein. C'est-à-dire, voir effectivement, finalement, si... la pièce n'a pas des problèmes qui feraient qu'elle continuerait à s'abîmer, si vous voulez. Ça peut être en effet des insectes. Hein. Voilà. D'ailleurs, quel est le problème s'il y a des insectes?
Il faut les tuer.
Pardon?
Il faut les tuer.
Alors voilà, il faut les éradiquer. Hein, voilà. Mais il y a un autre problème. Imaginez que vous soyez, donc vous êtes conservateur-restaurateur, on vous a mis cette pièce dans votre atelier. Le problème, c'est quoi?
Ah non, d'abord l'isoler.
Ben voilà, c'est que ça prolifère.
Il faut l'isoler déjà.
Absolument, il faut l'isoler. Hein, voilà. Il faut la mettre en quarantaine, parce qu'il ne s'agit pas que cette pièce en bois diffuse ses problèmes sur les autres. Hein. Parce que là, vous êtes mal barré, si vous voulez. Hein. Donc il y a en effet un problème de quarantaine, si vous voulez. C'est un peu comme pour certaines maladies. Il faut isoler. Puis effectivement, le premier élément, c'est de bien regarder s'il y a des problèmes actifs, en particulier des insectes. Et puis, faire ce qu'il faut. On avait parlé, d'ailleurs, d'un traitement qui, contre les insectes, était souverain, la dernière fois.
Oui, oui.
Hein ? Vous vous rappelez ?
Oui.
Pardon ? On avait parlé d'un emballage.
Oui.
Mais ça a un nom. Oui. ce qu'on appelle une poche d'anoxie.
Oui, l'anoxie. Hein,
voilà, l'anoxie. C'est-à-dire que, en gros, c'est une poche dans laquelle on met l'objet ou les objets, quelquefois. Hein, il y a des grosses poches d'anoxie, on met plusieurs objets dedans. Hein, c'est, ça permet de rentabiliser un peu la poche d'anoxie. Et en gros, c'est une manière de squeezer, si vous voulez, les anoxies, notamment par asphyxie, hein, qui sont à l'intérieur. Et donc, comme ça, ça élimine vraiment tous les insectes qui sont dedans. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez étudié un peu votre pièce. Attention, hein, si vous êtes conservateur-restaurateur, le but n'est pas non plus de faire une thèse de troisième cycle sur chaque objet qui arrive. Hein, c'est quand même pas votre métier. C'est important que vous saviez, que vous sachiez, si vous êtes devant l'éducation de la Vierge ou devant Saint-Jacques, hein, ça c'est utile et important et intéressant. Par contre, votre but, ça c'est pas votre travail, n'est pas d'analyser cette œuvre par rapport à toute l'histoire de l'art. Hein, on est d'accord quand même. Hein. Enfin, c'est important de la connaître pour des tas de raisons. Bien. Mais une fois que vous avez donc identifié cette œuvre, une fois que vous avez fait le nécessaire pour assurer la conservation préventive, hein, c'est-à-dire qu'elle ne s'abîme pas plus, vous allez faire quoi ?
Analyser ce qu'il y a eu, et puis demander un petit peu ce qu'on, enfin, ce que le propriétaire ou le musée ou je ne sais pas quoi veut. Qu'est-ce qu'il souhaite ?
Quelles vous semblent les pathologies, entre guillemets, essentielles d'une œuvre comme celle-là ?
L'usure.
Oui.
Enfin, avec ce qu'on a cité avant.
La dégradation
avant.
Du matériau.
Oui, la dégradation du matériau. Effectivement, c'est je crois, quand même l'élément... Alors, la photo n'est pas excellente. Hein, mais l'élément premier, on a l'impression quand même que la pièce est très...
animée.
Voilà. Très, très mangée par les... par les insectes xylophages, comme on les appelle. Hein. Effectivement, on a l'impression que c'est la question première. Mais vous m'avez vous-même parlé tout à l'heure de vestiges de polychromie, peut-être là, de vestiges de sous-couches sur lesquelles il y avait peut-être autrefois de la dorure, de la peinture. Vous faites quoi avec ça ?
On analyse,
oui.
Pour savoir ce que c'est.
Oui, absolument.
Ça va renseigner pour...
Oui. Et alors, si par exemple, on sait que... là, il y a un reste de vert clair. Hein. Donc, on peut penser, surtout qu'on en voit là, on peut penser que la robe de la Vierge était vert clair, peut-être. Hein. Bon. Là, on voit des restes de taches blanches qui peuvent faire penser, encore une fois, c'est pas sûr, hein, à un bol, c'est-à-dire à la sous-couche de la dorure, en gros. Est-ce que ça veut dire qu'on on va redorer la robe de la Sainte Anne et reverdir celle de la Vierge?
Non.
Non ?
Ça dépend de l'usage.
Ça dépend de l'usage ?
Moi, je la laisserai comme ça.
Non, vous laisseriez comme ça ?
Oui.
Ouais. Ben, effectivement, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de... Alors, vous disiez, ça dépend de l'usage. Ça, c'est pas faux. Hein. Après tout, le propriétaire peut vous dire... Moi, je veux plutôt garder cette espèce de bout de bois un peu piqué par les vers, je veux que ce soit propre, entre guillemets, là. Cela dit, ça va avoir... donc, le propriétaire a quand même le droit de défendre son point de vue. Cela dit, si vous êtes vraiment un conservateur, restaurateur professionnel, vous saurez lui dire que... Ben, basta, quoi. Enfin, il ne faut pas aller trop loin. Quoi, hein. Voilà. La prudence, vous vous rappelez, hein, c'était dans nos mots-clés la dernière fois. Je les ai parmi aujourd'hui, les mots-clés, parce qu'eux, ils n'ont pas changé. Hein, mais vous les trouverez sur la séance de la fois dernière. La prudence, l'humilité est importante. Parce qu'après tout, par exemple, là, ce bol blanc que vous avez là, bon, la photo n'est pas très bonne, mais il n'y a quand même plus rien dessus, quoi. Alors, c'est une sous-couche, mais de quoi, c'est difficile de le dire, quoi. Puis, de toute façon... je veux dire, cette œuvre, elle a une histoire, l'idée n'est pas de revenir sur l'histoire qu'elle a. Alors, on va peut-être passer à une autre œuvre.
Si on veut s'amuser, on peut faire une petite statuette en plâtre et puis une peinture de dessus.
On peut, absolument.
Oui,
absolument. Ça peut être une solution. C'est-à-dire faire un moulage, hein, par exemple, hein, ou une copie. Et puis là, le restituer, ça se fait quelquefois. Hein. Notamment, dans quel cas ça peut se faire, ce genre de choses ?
Quand il manque des morceaux.
Donc, un objet qui est à l'extérieur, et on met la copie à l'extérieur et on range le reste en sécurité.
Souvent, on le fait effectivement pour des sculptures architecturales, hein, sur les cathédrales, par exemple, c'est très fréquent. Hein. On dépose effectivement les œuvres originales et on les remplace par des copies. Et les copies, on peut éventuellement se permettre, bien sûr, hein, comme vous le disiez, de les peindre telles que l'étude de l'original nous a permis de savoir quelles étaient. Hein. Bon, ça, c'est une chose possible, effectivement.
Par exemple, quand il y a une période, la majorité des statues sont présentées sous une certaine forme. par exemple, si au XVIIe, toutes ce genre de statues étaient systématiquement polychromes, dorées, quelle option on prend là? On essaie de restituer pour le savoir ou on le laisse comme ça?
Non, on laissera comme ça. Enfin, un conservateur-restaurateur, j'allais dire digne de ce nom, laissera comme ça. Parce que, pour les raisons que l'on disait, parce qu'on ne peut quand même pas être sûr de tout, quoi. Hein. Par exemple, même si on peut imaginer que la robe de la Vierge était verte, ou bleue, parce que c'est peut-être du bleu, en fait. Rien n'indique que le col n'était pas rouge, par exemple, ou jaune, vous voyez. Or, s'il n'y a plus rien, voilà, vous ne pouvez pas le dire, quoi. Il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'on prend de plus en plus en compte l'histoire de l'œuvre. Et après tout, le fait que cette œuvre, peut-être s'est retrouvée dans le grenier d'une église, ou je ne sais quoi, c'est aussi un élément de son histoire, hein, qui, quelque part, parle de l'œuvre. Donc, l'idée, parce qu'on n'est pas sûr, et donc on n'a pas envie de faire jouer à l'œuvre un rôle qu'elle n'a pas eu, si vous voulez. Et deux, pour prendre en compte son histoire, on préfère laisser et ne pas interpréter. On regarde une deuxième image. Bon, alors là, au niveau iconographie, c'est pas très compliqué. Vierge et enfant, pas de problème.
Vierge reine.
Elle vient du sud-ouest de la France.
Elle a une couronne, quand même.
Oui, oui, oui. Mais je pense qu'on doit, pouvoir en trouver ailleurs. Vous me direz, les objets bougent. Mais elle vient d'une église des Pyrénées, en fait.
Et le Christ aussi est couronné.
Oui, absolument, tout à fait.
Bon, l'enfant plutôt.
Alors oui, on est au Moyen Âge. Hein. C'est un petit peu. Vous auriez une idée de date là aussi?
13e.
Ouais, c'est sans doute autour de ça. C'est un peu après, vous savez, les vierges très romanes, etc. Avant les vierges gothiques, 14e, on est sans doute au 13e. Alors, là aussi, l'œuvre arrive, qu'est-ce que vous faites? Alors, on est d'accord, hein, on fait d'abord une étude, etc. On va parvenir dessus, on sait que c'est la première attitude. Hein, on voit ce dont il s'agit, d'accord. Une fois que vous avez vu ce dont il s'agit, qu'est-ce que vous préconiseriez comme traitement? Parce que quel est votre diagnostic? Quand vous voyez arriver ça dans votre atelier, vous dites, vous dites quoi?
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de repeints bizarres? Parce que des couleurs... Le jaune, le rouge.
Des associations bizarres.
Oui. Il y a des associations bizarres. Hein. Par exemple, à quel endroit?
Le rose et jaune sur le plastron de la Vierge.
Ouais. Ça veut dire qu'il s'est passé quoi?
Il y a eu des
plusieurs couches.
Voilà, plusieurs couches, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que l'œuvre a été peinte, puis repeinte. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi?
On peut dater les...
La chronologie.
Alors, effectivement, il y a des méthodes pour, en tout cas, faire une chronologie relative. Quelquefois, c'est très difficile de faire une chronologie réelle. C'est-à-dire qu'il est compliqué, difficile de dater précisément des couches de peinture. Hein, sauf s'il y a la possibilité de trouver dans la peinture des éléments d'organismes, si vous voulez, qui permettent de les dater. Mais ça, c'est pas très fréquent. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est une chronologie relative. C'est-à-dire qu'on fait, à un endroit de la sculpture, c'est quelquefois au dos, par exemple, une sorte de petit sondage, si vous voulez, qui permet de voir, de faire une sorte de petit éventail des couleurs, de voir que sous le rose, il y a le jaune, sous le jaune, il y a du bleu, sous le bleu, il y a du blanc, et que sous le blanc, il y a du vert. Voilà. Et donc, vous faites au moins une chronologie relative. Ça ne vous dit pas quelle est la date des différentes couches, mais ça vous dit que le vert est plus ancien que le jaune, par exemple. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire. Mais une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous faites?
Alors, est-ce qu'on a le droit de remettre à l'idéal primitif, du début?
Qu'est-ce que vous en pensez? L'idéal primitif, c'est-à-dire de retrouver la couche première. Par exemple, si la couche première, c'est le jaune... On décaple tout et on met tout en jaune.
On sait pas si tout est dans.
Alors, imaginez qu'on ait fait notre petit sondage et qu'on ait vu que le jaune était la couche la plus ancienne. Hein, on a fait notre petit sondage qui montre que le rose-rouge est au-dessus du jaune et que le jaune qui est en dessous, qui a rien en dessous, qui est directement sur la couche de préparation sur le bois, donc c'est le jaune la couche la plus ancienne. Ça veut dire que, est-ce que vous êtes autorisé, en tant que conservateur-restaurateur, à virer le rouge pour mettre le jaune à jour?
Mais est-ce qu'on ne risque pas d'abîmer la couche d'en dessous en enlevant la première couche?
Alors, techniquement, c'est faisable. Je ne vous dis pas que ce soit facile, hein, mais techniquement, c'est faisable. Hein. Un conservateur-restaurateur formé peut le faire. Alors, vous avez raison quand même, parce que quelquefois, c'est coton, hein, et quelquefois, c'est même pas trop possible. Hein. Pour des raisons mécaniques, quoi, enfin, qui font que la couche supérieure est, je sais pas, très dure, effectivement. Mais normalement, la chose est très souvent envisageable. Si parfois ça peut être dur et quelques rares fois impossible. Hein. Mais ça dit, il peut y avoir un problème justement parce que imaginez qu'on puisse enlever la couche rouge sans problème, hein, que ça ne pose pas de questions graves, si vous voulez, que ça s'enlève facilement. Quel est le risque de ça ?
Mais de perdre l'histoire.
De perdre l'histoire.
De la vénération de cette Vierge.
Ouais. Et puis il peut y avoir un autre risque. Parce que là, par exemple, je vois qu'il y a du jaune. Hein. Ouais. Bon. Mais là, ben voilà. Si j'enlève le rouge et qu'il n'y a pas de jaune en dessous, je vais me retrouver avec trois taches de jaune là, puis tout le reste sera plus rien, quoi.
Mais est-ce...
Et ben voilà. Ben voilà. Quelquefois, la solution peut être de faire des micro-sondages, hein, à différents endroits pour voir si oui ou non la couche antérieure, la couche d'origine, si vous voulez, est conservée. Parce qu'effectivement, si vous décapez tout et vous vous trouvez avec une sculpture qui est absolument plus du tout couverte de rien, et que vous avez enlevé finalement une couche qui au moins existait et qui témoignait d'une période de l'histoire de la sculpture, c'est un peu dommage, quoi, hein, vous avez un peu tout viré, quoi, hein. Donc effectivement, ça peut être une solution. De regarder si la couche d'origine est bien conservée un peu partout. Si vous voulez.
Quelquefois, il y a des barbouillages récents,
oui,
là, qu'il faudrait quand même enlever.
Absolument. Ça arrive aussi d'avoir effectivement des barbouillages récents peuvent être un peu lourds. Enfin,
je crois qu'il y en a eu un fantastique en Espagne il y a quelques mois.
Absolument.
Mais
c'est épouvantable.
Une dévote, je pense, qui a été...
En Italie.
Ah, c'était épouvantable.
Ça a fait le buzz sur Internet, ce truc-là. Oui, oui. C'est effectivement une dévote dans une église italienne qui, voyant sur un pan de l'église, hein, un mur de l'église, une figure d'un Christ d'après Guido Reni, d'ailleurs une peinture pas très intéressante, enfin, bon, en mauvais état, s'est mise à la repeindre. Et elle n'était absolument pas conservatrice, restauratrice. Hein, elle était, comme vous et moi, enfin, il y a peut-être des peintres parmi eux, je ne sais pas. Mais enfin, vraiment, voilà, elle ne savait absolument rien, et elle a fait une espèce de pomme de terre, enfin, c'était épouvantable. Effectivement, ça fait rire tout le monde, et ça a fait le buzz sur Internet, tout le monde en parlait. Je suis sûr que vous êtes tombé dessus un jour ou l'autre, si vous pianotez un peu, on ne peut pas ne pas tomber dessus. Absolument. Et en plus, ça a donné cours à des élucubrations de tout genre, c'est assez bon. Bien, donc, si on en revient effectivement à notre sculpture, effectivement, là se pose un problème de brouillage de la couche picturale. Hein. Alors, on ne sait pas si elle est rose, si elle est jaune, si elle est... Enfin, bref, on ne sait pas très bien. Et donc, effectivement, pour prendre une décision, il va falloir étudier quelles sont les couches successives, quelle est la couche d'origine ou les couches d'après, enfin, bref, connaître la superposition et voir si on décide ou non de garder... la sculpture telle qu'elle, ou si on décape la dernière couche pour remettre à jour une couche antérieure ou la couche d'origine.
Il faut faire la même chose pour les visages.
Absolument, tout à fait. Parce que là, vous voyez, les visages qui sont couverts d'une peinture qui a l'air assez costaud d'ailleurs, hein, font pas très médiévaux. Visiblement, tout ça a été barbouillé peut-être au XVIIIe siècle, hein, et recouvre peut-être une polychromie plus ancienne. J'avais trouvé d'ailleurs une photographie de cette Vierge restaurée. Hélas, impossible de la cliquer et de la mettre sur l'ordinateur. Donc je ne peux pas vous la montrer, c'est un peu frustrant, je suis désolé. Mais voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, cette pièce a été restaurée.
Et de quelle manière ?
Alors, le parti qui a été pris a été effectivement d'enlever la dernière couche et de trouver une couche antérieure relativement bien conservée. Alors, il y a des endroits où ça ne l'est plus. Par exemple, là, vous voyez le genou. Visiblement, toutes les couches de peinture ont sauté. Hein, mais c'est souvent le cas. Ce qui est en relief saute avant ce qui est en creux, bien sûr.
Alors, globalement, il était de quelle couleur ?
Je ne peux plus vous dire.
Et on a laissé les membres cassés ?
Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Parce que effectivement, il y a un autre problème.
Oui, mais on ne peut pas savoir dans quel sens, vraiment, ce qu'ils étaient.
Il faut les faire différemment, justement, pour montrer que c'est pas de l'époque.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, justement ? Est-ce qu'on les, Est-ce qu'on fait une main et un bras qu'on restitue, ou est-ce qu'on les...
Non.
On laisse comme ça. C'est très souvent la solution qui sera prise. Hein. Très, 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 très souvent, la solution sera de laisser l'œuvre telle qu'elle. Là, c'est le parti qui avait été choisi. Hein. On a laissé l'œuvre telle qu'elle, on n'a pas rajouté quoi que ce soit. Il peut arriver, hein, d'ailleurs, parce que, je rappelle quand même, on l'avait dit la dernière fois, chaque œuvre est singulière. Hein. Vous vous rappelez, on en avait parlé de ça la dernière fois. Et quelquefois, si vous faites une chose pour une œuvre, vous ferez un peu différemment pour une autre. Hein. À partir du moment où vous êtes dans la déontologie, notamment, que c'est réversible. Vous vous rappelez, on avait parlé de tout ça. Hein.
Il faut quand même que ce soit discrètement harmonieux à la fin. Hein.
Absolument. À la fois harmonieux et en même temps visible.
Oui.
Donc c'est un peu ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit que la main et le bras ont été rajoutés, qu'on puisse les enlever. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de tailler dans le bois, hein, puis de recoller des morceaux, etc., que ce soit indétachable. Mais puis en même temps, il faut que ce soit harmonieux quand même. Quoi. On est un peu dans un équilibre. Hein.
Oui, puis on ne sait pas si elle avait quelque chose ou pas.
Ben voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, alors on peut interpréter. D'ailleurs, quelquefois au XVIIIe siècle, des gens ne se gênaient pas. Ils rajoutaient des trucs. Hein, voilà. Donc on aurait le droit de le faire. Mais évidemment, aujourd'hui, on a des déontologies qu'on n'avait pas forcément il y a deux siècles ou trois. Quoi, hein. Alors, on se fait une autre petite sculpture.
Allez-y.
Hein, maintenant qu'on est parti. Alors,
ou la tête de l'enfant Jésus.
Encore une Vierge à l'enfant, hein, ça c'est pas, c'est pas des sujets trop compliqués que j'ai
soulevés.
Alors oui, le problème c'est que l'enfant, puis un peu plus que décapité même. Hein, voilà. Eh oui.
Mais c'est vraiment en bois.
C'est en bois. C'est en bois. Oui, on dirait du plâtre en bas. Hein, on dirait du plâtre en bas. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs qu'on dirait du plâtre en bas, justement ?
Est-ce qu'on voit la sous-couche ?
Oui, alors on voit effectivement la sous-couche, le plâtre. C'est la sous-couche, effectivement. C'est la couche de préparation pour mettre ensuite la dorure et la peinture. Oui. Alors, effectivement, cette œuvre, l'enfant Jésus est dans un état précaire, on va dire, et très mutilé. Et le reste, si vous voulez encore parler de la pathologie, entre guillemets, de cette œuvre, qu'est-ce que le problème, c'est quoi ? Au-delà d'un problème peut-être xylophage, hein, on a bien l'impression que ça a été mangé par, par les insectes. Hein.
Il y a la couleur aussi.
Oui.
À l'arrière.
Ouais. À l'arrière seulement. Voilà, cette œuvre, vous la dateriez de quand ?
En fin, début 18e.
C'est ça, fin 17, début 18e, on est par là, oui. Et, ok, mais qu'est-ce que vous auriez à dire de son apparence, autrement ?
Elle est pas mal conservée,
à part ça, elle est pas mal conservée, à part l'enfant Jésus, oui.
À part l'enfant Jésus, oui.
On a encore le fond de la
des couleurs. Oui. Les couleurs, oui. Pardon. C'est un peu fané quand même. Hein.
Oui.
C'est un peu fané. Hein.
Ouais.
Ça fait
Red d'Angleterre.
Ouais, mais les couleurs.
C'est pas trop mal conservé.
La main droite faisait quoi, probablement.
Il y a plein de possibilités. Plein de possibilités. C'est très difficile de dire. En Bourgogne, on a souvent ces vierges comme ça auxquelles on accrochait toujours, notamment des grappes de raisin. Vous savez.
Oui.
Mais bon, là...
Elle a été retrouvée où, cette...
Alors, elle, on verra tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Mais tout à l'heure, je vous montrerai les légendes de tout ça, et là, on s'en... Mais je ne me rappelle plus. Je crois que c'est peut-être de Savoie. Oui, moi, il y a quand même quelque chose que j'aurais envie de dire pour la polychromie. Alors, d'une part, vous disiez quand même qu'elle était un peu fanée. Donc, il y aurait au moins quoi à faire.
La nettoyer.
Voilà, au moins un nettoyage. Hein. Et peut-être d'ailleurs, avant le nettoyage, autre chose.
Dépoussiérer.
Alors, voilà, il y aurait sûrement un dépoussiérage qu'on appelle un dépoussiérage et même un décrassage. Hein. C'est-à-dire vraiment... bon, elle a été dans son église, sur son sol, pendant un moment. Hein. Donc, je crois qu'il y a un bon petit coup.
Faut le sol a l'air bien humide.
Oui, sans doute. Alors justement, parce que si vous vous mettez à dépoussiérer, à décrasser ça, à nettoyer, autrement dit, il y a quand même des endroits qui font un peu peur. Hein.
Ouais.
Alors on fait quoi, là ?
On tamponne.
Ah, on tamponne. Ouais. Ça veut dire que cette action de tamponner, elle va avoir pour but de faire quoi ?
Passer très doucement.
C'est-à-dire que le nettoyage, on va donc nettoyer un peu bien sur les parties comme ça, mais quand ça se gâte, si j'ose dire, on le fait avec un petit tampon pour nettoyer plus doucement, c'est ça ?
Oui.
Ouais. Tout le monde est OK avec ça ?
Non,
on tamponne de la peinture pour...
Pour redonner une couleur.
Pour redonner. On le fait tout de suite, ça ?
Non.
Voilà, je pense qu'il faut le... Alors, peut-être qu'on le fera, mais on le fera effectivement après. Hein. Dans la phase première, sachant qu'on a, encore une fois, fait notre fiche technique de l'œuvre, hein, on est en train de l'étudier, de voir ce qu'on va faire. On a noté cette pathologie vraiment embêtante, hein. On va peut-être la faire passer dans une poche de Noxy, cette vierge. Hein, je crois que vaut mieux, hein, parce que l'enfant de Jésus, si on veut qu'il en reste quelque chose, il y a intérêt, oui. Hein. Mais une fois qu'on a fait ça, effectivement, nettoyage, décrassage, sauf que dans les parties pas très en forme, hein, que plus tard, on va retoucher pour que ces taches blanches un peu disgracieuses n'apparaissent plus, elles ont quand même un problème. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça fait des espèces d'écailles, là, hein. Donc si moi j'arrive avec mes gros sabots et que je nettoie, paf, les écailles vont partir, quoi. Hein. Alors on fait quoi ?
On fixe.
On refixe, voilà. On refixe. C'est ce qu'on appelle le refixage. Ça, c'est très important, parce que quand vous voyez ça comme ça, vous dites tout va bien. Mais regardez, là vous avez par exemple un pan de la robe qui est très abîmé. Alors je suis persuadé que le bois qui est au-dessus avec la peinture au-dessus, si vous passez avec votre nettoyage, votre peinture, elle s'en va, et d'ailleurs avec le bois. Ouais,
mais si on refixe, on peut peut-être plus nettoyer après.
Alors voilà, ça c'est effectivement le gros problème. C'est-à-dire que si on refixe, le problème c'est qu'on refixe la peinture, mais on refixe la crasse qui est sur la peinture. Donc ça, c'est un gros problème. Autrement dit, cette phase nettoyage, refixage est une phase effectivement assez délicate où il ne faut pas refixer ce que vous allez devoir enlever parce que vous allez devoir le nettoyer.
Et on fixe comment ?
Alors, les techniques, il y en a toute une série. Quelquefois, on met d'abord ce qu'on appelle des papiers Japon. Hein, oui. C'est-à-dire des papiers qui ont pour but d'empêcher les écailles de partir. Hein, voilà. Alors après, il y a mille matériaux que je connais d'ailleurs pas forcément, hein, que je vois utilisés par les restaurateurs, mais dont je ne connais pas forcément la nature, hein, qui permettent de refixer. Hein. Ça va de matériaux très chimiques à des matériaux, je vais dire, plus traditionnels, du genre colle de ceci, colle de cela. Hein, voilà. Évidemment, chaque œuvre...
Il faut une neutralité du produit, alors.
Ah, il faut une neutralité du produit, puis quelque chose qui soit réversible et dont l'emploi ne fasse pas pire que le...
Qu'on ne mette pas un truc acide.
Voilà, c'est ça. Hein, faut faire gaffe à ça. Hein. Mais ce problème, effectivement, d'enfermer la crasse sous leur fixage, c'est très important. Ce qui est que quelquefois, vous allez devoir, par exemple, refixer certaines parties pour que les parties en question fragiles ne tombent pas, hein, nettoyer le reste, et après vous concentrer sur les parties refixées, non nettoyées, pour les pour que le refixage, si vous voulez, est remis, est recollé, pour faire vite, hein, la matière sur le bois, vous voyez ce que je veux dire, et que là, vous puissiez, à votre tour, nettoyer, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est-à-dire que avant de nettoyer, vous allez quand même devoir refixer pour que le nettoyage puisse se faire une fois l'élément fixé. D'accord ? Donc ça, effectivement, c'est un élément important. Par parenthèse, j'ai bien l'impression, là par contre, j'ai pas vu la photo de l'œuvre après restauration, hein, mais j'ai bien l'impression que tout ce que vous voyez là, c'est de la peinture vraiment du 19e siècle. Hein. J'ai vraiment l'impression, tout ce côté un peu plâtreux, vous disiez tout à l'heure, hein, vraiment la robe, elle est un peu lourdingue, on a l'impression d'un Saint-Sulpice, quoi. Hein. Et je pense que la partie inférieure au moins de la robe, cette espèce de manteau, tu sais, a été complètement repeint au 19e, et que je ne serais pas surpris qu'il y ait dessous des couches picturales plus anciennes. Mais l'idée peut être quand même de garder ça, parce que, après tout, c'est un moment d'histoire de l'œuvre. Alors là, c'est quoi ?
Un retable.
C'est un élément de retable, absolument. C'est donc une case, si vous voulez, un panneau dans un retable, qui représente quoi ? C'est la circoncision. Hein. C'est la circoncision de Jésus. Donc vous voyez là le Christ, hein, le grand prêtre, et on est en train donc s'apprêter à circoncire Jésus. Bien. Cette pièce, vous dateriez ça de quand? Ça a été fait où? Les pièces qu'on a vues avant étaient des pièces françaises. Hein, bon, là, on a oublié de le dire, donc je le redis, je le précise. Là, vous êtes où et à quelle époque?
C'est espagnol.
Espagnol?
Portugais.
Portugais.
Sud-américain.
Sud-américain. Fin Moyen-Âge, oui. D'ailleurs, vous dateriez ça à peu près de quand?
C'est gothique.
Gothique, gothique tardif.
Ouais.
Oui, parce qu'on a effectivement des éléments gothiques. Hein. Ça, tout ça, c'est très gothique. Hein. Donc, je ne sais pas, si vous aviez à donner une décennie à peu près, vous diriez quoi?
15e.
1450?
Ouais.
Milieu du 15e. Et donc, Portugal, Espagne, péninsule ibérique? Ou bien carrément, certains d'entre vous disaient Amérique du Sud, je crois.
Oui, mais à ce moment-là, c'est pas du 15e.
Ah oui, bien sûr.
C'est pas antérieur à 1492, en tout cas.
Parce que le personnage central a quand même un visage particulier.
Visage particulier. Ok, c'est votre dernier prix.
Les pays du Nord, mais ça me suffit pas.
Les coiffes sont bizarres, hein. Ouais, drôle de coiffe. Hein.
Ouais. Ouais. On dirait qu'elles ont les yeux gros.
Ouais. Donc une chose un peu orientale, hein. C'est curieux. Bah, en fait, ce que vous voyez là, c'est un retable qui a été certainement réalisé à Anvers.
Ah, ouais. Pays du Nord.
Ouais. En tout cas, en Flandre. Pardon.
C'est d'inspiration espagnole.
Pas vraiment. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a eu, à partir du début du XVe siècle, hein, mais surtout à partir du milieu du XVe siècle, en Flandre et à Anvers en particulier, une grande école de retables qui a couvert l'Europe de retables. On en a fait partout, on en a mis partout. Et dans ces retables, on a effectivement des scènes comme ça, avec des figures qui ont toujours... alors, tout ça est assez luxueux, hein, parce que là, vous voyez une scène, mais il y en a plein d'autres. Hein, et les personnages ont des coiffures, notamment féminins, des coiffures absolument curieuses, étonnantes. Tout ça est très doré. C'est très, très luxueux. Et il y a un côté un peu oriental, mais aussi parce qu'après tout, tout ça se passe en Orient. Hein, le Christ, il n'a pas vécu en Occident. Hein, voilà, hein. Donc, il y a une volonté, j'allais dire, de rajouter un peu une couche sur une espèce de luxe bizarre et un côté antique et oriental, si vous voulez. D'où cette espèce de surenchère qui donne des œuvres comme ça, qui ont évidemment un côté très exotique, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais ça, c'est la patte de ces retables anversois qui sont plus ou moins jusqu'au boutiste dans ce domaine, si j'ose dire.
À quelle taille, ça?
Ça doit à peu près avoir cette taille-là, hein. Grosso modo. Hein, voilà. Les statuettes que vous avez là doivent faire... 30-35. Hein.
C'est quand même très fouillé.
Très, très fouillé. Très, très fouillé. Alors, vous allez me dire, mais enfin, tout va bien. Est-ce que tout va bien, là?
Ah ben, on ne sait pas.
C'est très cassé?
Non.
Hein, c'est pas cassé.
Un petit peu.
Mais qu'est-ce qu'il y a devant?
On a l'impression que le personnage ou un masque, qu'est-ce qui donne cette impression-là?
Son lisse.
Alors oui, alors ça fait partie de ce style-là. Hein. C'est-à-dire qu'à Anvers, d'ailleurs dans la peinture on trouve des choses un peu équivalentes, il y a comme ça ce côté front bombé, etc. C'est une chose vraiment qu'on trouve. C'est une chose qui d'ailleurs correspond à la mode féminine du temps.
Oui.
D'ailleurs, très souvent, on se faisait
épiler.
Les cheveux sur le devant. Hein, on les avait câlins. Donc le front était comme ça prééminent, hein, proéminent. Hein, voilà. Donc ça fait partie de la mode du temps. Mais vous dites, ils ont comme un masque. Qu'est-ce qui vous donne cette impression-là aussi, au-delà du front proéminent?
La couleur.
Pas d'expression. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté, une sorte d'expression un peu étale, quoi. Elles ont toutes une sorte de voilà, un côté assez neutre, hein. Peut-être de légers petits sourires, mais enfin, sans plus, quoi. Vraiment, en effet, tout ça est un peu neutre, oui, un peu, c'est vrai. C'est une caractéristique aussi.
Aucun sentiment.
Oui, il y a un côté, il se passe beaucoup de choses et en même temps, il ne se passe rien. Oui, je suis assez d'accord avec vous.
Ouais. Ils ne sont pas guichants.
Non, oh bah non, elles n'ont pas à l'être.
Hein. Elles sont grosses pour le corps aussi.
Les têtes, vous voulez dire? Oui. Il y a un peu, un côté un peu disproportionné. Hein. Mais d'ailleurs, on l'a vu avec les fronts qui sont un peu trop aussi. Hein. C'est vrai. Hein. Donc il y a une sorte un peu d'étrangeté, mais c'est vraiment une mode. Et dans la peinture du temps, on trouvera des choses un peu équivalentes.
On a l'impression de tissu lourd.
Tissu assez lourd, oui. Alors, moi, justement, je réinsisterai sur ces espèces de tissus lourds ou ces masques. Certains disaient parmi vous qu'elles avaient un côté blême, ces femmes-là. Voilà, c'est normal, ça ?
Ah oui, mais ça peut être l'influence de la lumière.
Ouais.
Qui a transformé les couleurs.
Alors, ça peut être ça. Mais vous êtes dans un atelier de restauration et on vous amène ça.
C'est peut-être abîmé.
Abîmé ? Qu'est-ce qui serait abîmé, là, par exemple ?
Je sais pas. Ce côté blanc, ça veut dire que la peinture est partie.
Donc, ça veut dire que la peinture serait partie et qu'elles étaient peintes et qu'elles sont devenues blanches, que la peinture est partie, quoi.
Ou altérée.
Ou altérée. Altérée par quoi, par exemple ? Par le temps. Donc, poussière, les pigments qui évoluent, etc. Ouais. Poussière, encrassage, oui.
La lumière aussi.
La lumière. Qui donc empâte un peu tout ça et fait que c'est un peu lourdin, quoi. Ouais. Il y a une autre chose aussi, parce que ça, c'était dans quoi ?
Dans
une église. Il y a une autre chose qui a pu également encrasser tout ça.
Ah, les cierges.
Les cierges, l'ensemble, hein, tout ça, les cierges. Hein. Les cierges, quelquefois, ça empâte beaucoup, hein, avec une sorte de noir de fumée. Hein.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des visages très sombres.
Ouais.
Et des visages blancs. Alors, on se demande, est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Ou est-ce que... est-ce que c'est un parti pris du créateur ?
À votre avis ?
J'en ferme. Je pose la question.
Oui.
Les visages, c'est ceux qui sont au fond qui sont sombres.
Oui. Oui, alors elles sont d'autant plus sombres qu'elles sont un peu à l'ombre, mais elles sont réellement plus sombres. Ça vient peut-être aussi du fait que, devant, c'est plus grave. Parce que quand une brave dame est poussée un peu plus, elle pousse tête devant et pas le derrière, quoi. Et que vous voyez, une brave dame ou un brave monsieur d'ailleurs. Voilà, donc si vous voulez, les encrassages se sont plus incrustés dans le fond que devant. Parce que devant, c'est plus accessible, quoi. Mais il y a peut-être autre chose aussi.
Alors, une volonté de donner par là de la profondeur.
Ah, c'est une volonté de faire du sombre et du... pour. Alors, quelquefois, ce genre de choses a pu exister. Je ne pense pas que là, ce soit le cas. Hein. Mais il s'est peut-être passé encore autre chose.
Alors, est-ce
qu'il y a... À propos de ce... Vous avez tous dit que c'était un peu lourdingue, qu'il y avait un côté... que c'était un peu... Je trouve qu'on le devine. Hein. Regardez là, c'est marronnasse. Les dorures sont un peu empâtées. Enfin, oui, on a l'impression d'une espèce de crasse, quoi. Enfin, pardon ? La crasse ? Mais cette crasse, justement.
Est-ce que ça aurait été repeint par-dessus la crasse ?
Voilà. C'est-à-dire qu'à certaines époques, on a beaucoup aimé... comment vous dire, donner de la patine. On a sans doute à un moment trouvé que ce retable très rutilant, hein, très exotique, comme vous disiez tout à l'heure, qui pétait, si vous voulez, ça faisait pas assez médiéval. Il fallait le Moyen-Âge, c'est terne, forcément. Hein. Enfin, c'est une idée qu'on s'en est longtemps fait et qu'on se fait encore largement aujourd'hui. Hein. C'est médiéval, il faut que ce soit terne. Voilà. Donc, ces retables rutilants qui clinquaient, n'est-ce pas, dans les églises, hein, on trouvait que ça ne faisait pas médiéval, ça ne faisait pas assez médiéval. Il fallait que ça fasse médiéval. Alors, pour faire médiéval, on passait à une espèce de jutage marronasse qui vous donnait une espèce d'impression de fausse patine, si vous voulez, pour, avec ce jus, hein, donner l'idée d'une patine médiévisante, donner un aspect plus médiéval. Quelquefois, d'ailleurs, on est allé plus loin. Quelquefois, alors, c'est pas tellement le cas sur les retables, mais souvent sur des sculptures, on a carrément, au XIXe siècle, souvent décapé les sculptures. Parce qu'on se disait, après tout, au Moyen-Âge, les sculptures n'étaient certainement pas peintes. Alors, on décapait notamment les sculptures en bois, hein, on mettait le bois à vif, et puis alors, en plus, on cirait. Ce qui fait que les sculptures qui étaient généralement en bois clair, parce qu'il y avait par-dessus des couches picturales, hein, on en voit souvent, hein, dans les églises, sont aujourd'hui... Le bois est à vif, si vous voulez, et très foncé, parce qu'on a enlevé la peinture et on a ciré tout ça. Quelquefois, même on a badigeonné avec du brou de noix ou que sais-je encore, pour donner un aspect rustique. Hein. Parce qu'au Moyen-Âge, il faut que ce soit rustique. Il n'est pas du tout question que ce soit brillant, pimpant, éclatant, etc. Au XIXe siècle, on a vu, au XIXe et au XXe, hein, on a voulu faire de ça des œuvres médiévales. Le Moyen-Âge, il est moyen, après tout. Hein. Voilà. Donc, pour ce soit encore plus médiéval, on vous jute tout ça. Hein. Et je vous montrerai tout à l'heure des vues de ce retable après restauration, vous verrez que ce n'est pas pareil. Hein. Ok ? Alors là, même chose, ça représente quoi et quelle époque ? C'est du bois encore. Hein. Alors oui, c'est peut-être un ange ou peut-être un diacre. J'ai trouvé cette photo, mais là, ce sont des gens, hein, quelquefois. Compliqué. Bien. Mais je pense que c'est soit un ange, effectivement, qui aurait pu ses ailes, hein, soit un diacre.
Mais non, il tient apparemment sa dalmatique.
Alors voilà, j'ai l'impression qu'il tient sa dalmatique. Mais c'est pas très clair, quoi. C'est assez curieux. Et alors, quelle pathologie vous voyez là ?
Il n'y a pas une fente sur le visage ?
Une perte de couleur, parce qu'on voit quand
même
assez bleu.
Hein. Oui, oui, oui. Hein. Et puis ça, tout ce blanchâtre là, c'est usé, c'est la sous-couche. Hein. Donc voilà une sculpture qui a été peinte et qui ne l'est plus. Et puis il y a d'autres pathologies quand même. Hein.
Ah oui, le socle.
Le socle. Anoxie, anoxie. Hein. Hein, là aussi, je crois que... Hein. Bon, c'est clairement un cas de figure assez proche de la première sculpture que je vous montrais tout à l'heure. Hein. Et là...
On dirait de la pierre.
Ouais. C'est vrai, on dirait de la pierre. Or, c'est du bois. Ça représente quoi ?
L'évêque.
Un évêque. Un saint évêque. Hein. À vrai dire, on ne sait pas quel est ce saint évêque. On a beaucoup des saints évêques. Hein. Donc, c'est un saint évêque. Bon.
Il a été décapé, celui-là ?
Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle époque ? Ouais. Oui, on est à la fin du Moyen-Âge, sans doute fin 15e. Hein. Peut-être tout début 16e, mais enfin, vous voyez, fin 15e, fin Moyen-Âge. Hein. Alors, derrière la pierre, donc, qu'est-ce qui s'est passé ?
On l'a décapé.
Et puis, on l'a peut-être peint pour faire de la fausse pierre, non ?
C'est ça, en fait. C'est-à-dire que cette sculpture, à vrai dire, et vous allez le voir, elle n'a pas été décapée, mais on l'a repeinte pour faire de la fausse pierre. Pourquoi ?
Parce que dans le voisinage, il y avait de la pierre.
Peut-être.
Il y avait d'autres saints du même type.
Peut-être. Et puis, il y a peut-être une autre raison aussi.
Peut-être le seul élément en bois.
Peut-être. Peut-être que dans l'église, on s'est dit à un moment, oh là, ce truc en bois, ça ne va pas. Il nous faut de la pierre, de la pierre, de la pierre. C'est possible. Peut-être une autre raison aussi. Il se trouve qu'au XVIIIe siècle, on a beaucoup repeint des sculptures en bois comme ça, parce que, vous savez, notamment à l'époque, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à l'époque néoclassique, style Louis XVI, si vous voulez, hein, on aime beaucoup, on n'aime pas du tout ce côté, vous voyez, rutilant, de couleur, etc. Il faut du marbre, il faut de la pierre. Hein. Donc très très souvent, on a repeint des sculptures pour leur donner effectivement l'allure de la pierre, hein, de sobriété un peu à l'antique, si vous voulez. Ces sculptures, alors là je vous montrerai cette sculpture tout à l'heure, restaurée, vous verrez que c'est assez saisissant. Hein. Parce que là, quelle partie vous prendriez-vous ?
Bah, de décaper. Mmh.
Ouais. Ouais, puis retrouver les couleurs,
si on peut.
Voilà, c'est ça, c'est toujours la même question. L'idée est déjà de vérifier, de voir si en dessous il y a encore quelque chose, et s'il y a quelque chose, bah peut-être d'enlever cette couleur blanche qui est quand même pas passionnante, si vous voulez, hein, et qui quand même occulte.
C'est un mensonge.
Voilà, tout à fait. Hein. Donc qui occulte vraiment, vraiment. Alors je vous montrerai le résultat tout à l'heure, il est, je crois, assez opérant. Et puis une dernière pièce, enfin, ou deux dernières pièces, ça c'est quoi ?
Des candélabres.
Voilà, des anges candélabres. Ça a un nom d'ailleurs, ce genre d'ange. On appelle ça des anges séroféraires, hein, qui tiennent de la cire, si vous voulez. Oui. Enfin, hein. Voilà. Quelle époque ?
18e.
Oui, c'est ça, plutôt 18e. Hein, voilà. Ça peut être fin 17e. Bon, voilà. En tout cas, on est autour de plus ou moins 1600, 17, enfin, pardon, 1700, hein, plus ou moins. Ok. Oui, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ça arrive dans votre atelier, mais pourquoi ? Qu'est-ce que le problème, c'est quoi ? Ou les problèmes, c'est quoi ? Moi, j'en vois deux.
Non, celui de droite, c'est le pied.
Oui, celui de droite, il a l'air d'avoir un petit problème quand même.
Oui.
Il est un peu penché.
Oui.
Mais les deux, enfin, oui, on se demande comment ils tiennent d'aplomb.
Oui, bah oui. Et celui de gauche ?
Bah, celui de gauche aussi, parce que quelqu'un part.
Voilà, visiblement, celui de gauche après aussi, parce qu'il faut le tenir pour qu'il tienne. Quoi. Donc d'abord, ils ont un problème, je dirais, mécanique, structurel. Quoi, hein. Donc la première chose, c'est déjà de régler ce problème-là.
Mais c'est quand même une paire.
C'est quand même ?
Une paire.
Une paire, oui. Oui, c'est une paire.
Alors, ça tient peut-être à la photo, mais il y en a un qui est plus pâle que l'autre.
Oui, oui, ça tient, je pense, un peu à la photo. Ouais, ouais. Alors, justement, donc le premier problème, la première pathologie, c'est l'état structurel. En gros, il se casse la figure, quoi. Visiblement, il y a des problèmes. Et le deuxième problème, ce serait peut-être quoi ?
Alors, est-ce qu'il y aurait eu une dorure, une fausse dorure ?
Voilà. Visiblement, tout ça a été doraillé.
Oui, oui, parce qu'il y avait des substance à partir de bronze.
Absolument, de la bronzine.
La bronzine, et qui a fait des dégâts
épouvantables. C'est-à-dire que visiblement, à une période, on a voulu, pour le redonner un petit air de fête, hein, parce qu'évidemment, la dorure ancienne, voilà, ça claque. Hein, on a voulu les redorer, entre guillemets, avec effectivement cette espèce de bronzine, qui est une espèce qui est une chose horrible, enfin, je suis horreur de savoir.
Et puis, il y avait différentes couleurs de.
Oui, quelquefois, c'est un peu verdâtre.
Or pas, alors...
Absolument. Et ça donne des résultats terribles. Voilà. Et donc, si vous voulez, vous le voyez là, en particulier, peut-être plus que là, une espèce de dorure un peu rude, sèche, dure, quoi, enfin. Et qui n'a pas du tout la subtilité d'une dorure ancienne, où le rouge apparaît plus ou moins sous l'or, enfin, voilà. Donc, évidemment, on a deux problèmes là. Une restauration un peu drastique, hein, à la bronzine, peut-être faite dans les années 50, on a beaucoup utilisé ça, et puis un problème mécanique qui fait que ces pièces ne tiennent pas tellement debout. Alors finalement, au vu de tout ça, si on voulait faire une sorte de... Là, vous avez vu passer ces 6 ou 7 sculptures. Si vous aviez maintenant à faire la liste, en quelque sorte, des différentes opérations que vous faites, et dans le bon ordre, hein, quand vous avez des sculptures de ce genre qui arrivent dans votre atelier. Si vous aviez à faire un petit listing, comme on a pu en faire la dernière fois, des différentes opérations à faire, vous diriez quoi ?
Des
contaminations.
L'affiche.
Alors l'affiche. Très bien. On commence par l'affiche.
La mise en quarantaine avant.
Ça peut aller avec.
Oui, voilà.
Oui, c'est vrai.
Si on les met en cible. Et pas repérer les problèmes.
Oui. Alors, par exemple, concernant quoi ?
Les peintures.
Oui.
L'état des matériaux.
Donc, finalement, les trois premiers éléments à faire, hein, c'est un, ce qu'on pourrait appeler le constat d'état, hein, c'est-à-dire quelque chose qui permet de voir ce que c'est, de voir d'avoir ce que c'est, ce que ça représente, etc. Souvent, quand même, hein, surtout dans ce genre d'atelier, sauf quand des œuvres viennent d'églises où il n'y a personne pour s'en occuper, hein, où là, les gens ne savent même pas ce que ça représente, souvent. Hein. Mais souvent, quand même, quand ça vient de musées et autres, on sait ce que c'est, quoi. Bon, voilà. Enfin, il faut déjà faire ça. Puis le constat d'état, c'est l'étude que vous disiez au départ. Est-ce qu'il y a des insectes ? Est-ce que... voilà. Hein, bon. Deux, il y a effectivement tout ce qui est structurel. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a justement des insectes ? Et dans ces cas-là, il faut traiter, quoi. Faire une poche d'anoxyde, etc. Et il y a parallèlement, alors, avant, après, pendant, c'est des choses ensemble, hein, l'étude en particulier de la polychromie, des couches picturales. Hein, effectivement. Alors maintenant que vous avez fait votre constat d'état, vous avez étudié la polychromie, que vous avez étudié la structure et que vous avez regardé les problèmes structurels qui se posaient, vous allez donc faire quoi ? Et que vous les avez résolus, hein, vous faites quoi ?
On va agir sur ce qui est...
On va se concerter.
Oui.
Oui.
Le refixage. Oui, absolument. Le refixage est important. Parallèlement au nettoyage. Hein. Voilà. La question du nettoyage et du refixage, oui.
Oui, et puis la concertation sur le fait qu'on fait.
Oui. Alors, peut-être que... Donc, ça, c'est effectivement important. Ça aura même lieu, peut-être... je veux dire, tout, à vrai dire, quand on travaille avec un conservateur-restaurateur, normalement, hein, un conservateur, mais de musée par exemple, doit en permanence être en lien avec lui ou avec elle, quoi, hein, parce qu'il y a évidemment en permanence des choses nouvelles qui se passent. Alors, ça se fait soit par téléphone, soit en direct, quoi, hein. En général, on va très souvent voir les œuvres dans ces cas-là, parce qu'il y a, malgré tout des petites décisions à prendre parfois.
Oui.
Donc effectivement, ça c'est un peu durant toute la, je dirais, le processus. Oui. Hein. On va dire dialogue.
Dialogue, oui,
ce qui doit être très intéressant d'ailleurs.
Oui. Ah oui, c'est pas la phase la plus ennuyeuse, je suis bien d'accord avec vous.
Et il doit y avoir aussi une période, enfin un moment où le choix des matériaux à utiliser.
Alors, ça c'est vrai à tous les niveaux. Hein. Ouais. C'est vrai, par exemple, au niveau de l'étude de la polychromie. Vous allez voir quel matériau utiliser pour dégager vos couches de polychromie. C'est vrai au moment où vous allez considérer la structure. Vous allez voir si vous allez mettre une résine particulière ou que sais-je encore pour consolider, par exemple. Hein, voilà. C'est vrai au niveau du fixage, du nettoyage. Donc il y a à chaque fois, en effet, un travail sur les matériaux. D'ailleurs, on a vu la dernière fois que le conservateur-restaurateur devait avoir... comment dire, devait travailler ce domaine de la recherche. Hein, non pas qu'il soit chercheur lui-même, mais il doit faire appel à des gens dont c'est le métier, par exemple. Alors, vous parliez tout à l'heure de ce dialogue. Je crois que le dialogue, il est important à la fin, quand la restauration est faite, parce que, on en a parlé la dernière fois, mais une fois que l'œuvre est restaurée, il ne s'agit pas de la refourrer dans un contexte qui fait que 3 ans après, il faut recommencer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, à la fin, à la toute fin, ça fait partie de la restauration, hein, il y a ce que j'appellerais les préconisations. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que l'œuvre est en bon état, bah, plutôt que de la ramener dans son église au-dessus des cierges pour qu'elle prenne la poussière et que dans 10 ans, il faille tout recommencer, l'idée est peut-être de dire, bah, écoutez, on va peut-être la mettre ailleurs, on va peut-être mettre une cloche par-dessus, on va peut-être, que sais-je. Hein. Donc ça, les préconisations, c'est important, c'est un élément important de la fin. Et puis il y a 2 autres choses dont on n'a pas parlé, c'est, mais ça paraît un peu évident, hein, les recollages ou les comblements. Bon, on a vu tout à l'heure, par exemple, qu'à tel endroit, il y avait un drapé de vierge, hein, qui était abîmé. Bon, alors il n'est pas question de le refaire, hein, mais par contre, quelquefois, il faut un peu le consolider, si vous voulez, un peu combler, vous voyez ce que je veux dire. Ou quelquefois, vous avez une polychromie qui est parfaite, il y a une écaille au milieu. Bon, ben là, si vous savez que c'est rouge au-dessus, en dessous, à côté, à droite, à gauche, là, vous allez combler l'écaille et repeindre, hein, faire ce qu'on appelle la retouche. C'est-à-dire vous allez retoucher, d'une manière un peu différente d'ailleurs de l'original, hein, avec ce qu'on appelle quelquefois du traité, c'est-à-dire des petits traits très fins les uns à côté des autres, hein, qui vous permettent, quand vous regardez l'œuvre, de voir que tout est original, sauf la petite écaille que vous avez rebouchée au milieu.
Oui, mais il faut être sûr que ce soit le même matériau, parce qu'ils peuvent évoluer différemment.
Absolument. Le même matériau, ou du moins des matériaux compatibles.
Oui,
voilà, compatibles.
Dans la nature du... un jaune de chrome ou...
voilà, quelque chose qui puisse convenir, quoi.
Je dis jaune de chrome, c'est un peu violent. Enfin.
Voilà. Alors, la petite question de question, grosso modo, la voilà, hein. Donc le constat d'état, l'étude de la polychromie, les questions de consolidation de la sculpture, notamment le problème de la poche d'anoxie. Hein, d'accord. Peut-être d'ailleurs j'aurais dû mettre la consolidation avant l'étude de la polychromie, parce que je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Je le remettrai en ordre sur la prochaine diapo. Voilà, les refixages, le nettoyage, les comblements collages, la retouche et les préconisations. Tout ça, j'ai oublié de le mettre, mais je le rajouterai sur la prochaine diapo, en dialogue, effectivement, avec le responsable de la collection. Ça, c'est effectivement très important.
Et est-ce que le responsable de la collection, je pense pour les parties manquantes, est-ce qu'ils font des hypothèses en fonction, en fonction du mouvement, en fonction de savoir ce...
Quelquefois, oui. Quelquefois, oui. Quelquefois, effectivement, on peut dire, écoutez, je pense vraiment que cette figure avait la main comme ci, comme ça, tenait telle chose, telle autre, oui, oui, oui. Quelquefois, on peut, encore une fois, chaque œuvre étant différente, quelquefois, on peut même aller jusqu'à se risquer à faire une restitution. Oui. Ça peut exister dans une église par rapport à des questions de culte. Imaginez que vous ayez une statue de Saint-Paul dans l'église Saint-Paul, je ne sais où, que votre Saint-Paul, il est comme ça, qu'il n'a plus l'épée. Ça ne le fait pas, comme on dit aujourd'hui. Il lui faut une épée, autrement, ce n'est pas Saint-Paul. Voyez, donc on peut dire, bah, on va rajouter l'épée. Voilà. parce que pour des raisons culturelles, c'est mieux, entre guillemets, vous voyez ? Donc il y a un possible. Alors c'est-à-dire on le fait avec toute la prudence qu'on a vue, c'est-à-dire qu'on l'a fait dans un matériau qui sera proche, etc., mais pas pareil, pour qu'on comprenne bien que c'est un ajout. On peindra avec, vous voyez, quelque chose qui montrera qu'on documentera, c'est-à-dire qu'on prendra les photos avant, après, pendant, que sais-je, voilà. Alors, maintenant qu'on a restauré toutes ces sculptures en bois, je vais quand même vous les remontrer avec les cartels correspondants. Hein, voilà cette fameuse vierge qui vient de Château-Chalon, d'ailleurs, hein, et dans la région, celle-là. Hein. Dans le Jura, oui. Voilà cette fameuse vierge des Pyrénées dont on a parlé tout à l'heure. Voilà la vierge qui vient de Beaumont de Lomagne, précisément. Quelqu'un a demandé d'où ça venait tout à l'heure.
Où est-ce ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà la circoncision, hein, donc retable en verre, etc. Ça vient de Rennes, hein, cathédrale Saint-Pierre, ça date du début du XVIe siècle. Le retable en question, le voilà. Hein. La scène de la circoncision, c'est ça. Hein. Vous voyez que c'est assez copieux. Hein. Voilà. Et alors, je vais vous montrer, vous avez peut-être vu, donc ça, vous avez bien remarqué tout à l'heure, les trois saintes femmes qui sont là derrière, hein, bien encrassées, bien noires, rôdes, etc. Hein. Alors, je vais vous montrer ce que ça a donné une fois restauré. Vous avez là les saintes femmes telles qu'elles étaient au départ, dépoussiérées. Hein. Voilà ce que ça a donné à la fin. Hein, vous voyez que le jutage, sans doute 19e, pour faire médiéval, il n'y est pas une main morte, hein, parce que c'était comme ça à l'origine. Et là, vous voyez, une de ces saintes femmes en cours de restauration, à droite et à gauche, c'est quand même impressionnant. Hein. Hein, c'est quelque chose, hein. Mais voilà, il y a une époque, si vous voulez imaginer que ça puisse être ça, n'était pas regardable, c'était pas possible. Au Moyen-Âge, on ne pouvait pas faire ça. Donc on a juté, voilà ce que ça a donné. C'est impressionnant, hein.
Ouais.
Bon, lui, c'est un saint diacre, hein, peut-être, du XVe siècle. Et alors voilà la fameuse sculpture. Vous avez à gauche la sculpture telle qu'elle est arrivée, et à droite, vous voyez que la polychromie était complètement conservée. D'autant mieux d'ailleurs qu'elle a été couverte, sans doute au XVIIIe, par cette couche blanche. Hein, c'est fou, c'est bien le même. Hein. On aurait eu mal à l'imaginer. Hein. Impressionnant quand même.
C'est pas mal parce que ça l'a conservé.
Voilà, en quelque sorte, oui. Bon, et ces deux anges, on en a parlé tout à l'heure. Bien. Je voulais simplement vous dire qu'en France, il y a. Il y a un certain nombre de conservateurs-restaurateurs qui sont spécialisés dans le domaine de la restauration de la sculpture, notamment de la sculpture en bois. Mais il y a deux ateliers qui sont très fameux dans ce domaine. Il y a un atelier à Grenoble qui s'appelle Arc Nucléaire, qu'on appelle comme ça parce qu'il a développé depuis très longtemps, depuis les années 60, hein, une technique qui intègre le nucléaire. Et c'est important parce que certaines sculptures sont quand même parfois dans un état épouvantable. Il y a des sculptures, parfois, notamment dans les années 60, qu'on trouvait dans les églises, et qui étaient de vrais pains d'épices. Vous les preniez, pouf, ça tombait. Quoi. Que faire ? Quelquefois, c'était dur. Et à Arc Nucléaire, ils ont mis en place des techniques qui ont permis à cœur, si vous voulez, de faire entrer dans ces sculptures des matériaux du type présine, pour faire vite, hein, pour vraiment, à cœur, hein, reconstituer la matière manquante. Je vais vite. Hein. Sauf que ça a été fait avec des matériaux divers et variés qui, évidemment, sont généralement irréversibles. Hein. Donc ça modifie quand même un peu l'œuvre. Hein. Et notamment son poids, c'est-à-dire qu'après ce genre de travaux, les sculptures qui sont, quelquefois des sculptures comme ça en bois assez légères, deviennent vraiment très très lourdes. Hein, voilà. Et puis quelquefois ça modifie également beaucoup les pigments, là, etc. Alors pour certaines sculptures, ça a été très heureux parce qu'on ne l'aurait pas fait, il n'y aurait plus les sculptures. Donc c'est réglé. Hein. Les techniques ont beaucoup évolué, beaucoup changé. Maintenant, Arc Nucléaire est beaucoup plus fin dans le travail. Hein, donc ça n'a rien à voir avec ce qui est passé il y a 50 ans. Et là, vous voyez, Arc Nucléaire, on est en train de travailler sur les éléments d'une mise au tombeau de la collégiale de la cathédrale Saint-Pierre de Moutier, que voilà, hein, avant restauration d'ailleurs, avec un très joli bouquet de fleurs devant. Et voilà. Et puis, il y a un autre atelier très célèbre qui est dans la région, à Vesoul. Il y a à Vesoul un atelier qui s'appelle le CRRCOA, Centre Régional de Restauration de Conservation des œuvres d'art, à Vesoul, qui d'ailleurs a travaillé sur la restauration du retable de Rennes, que je vous ai montré tout à l'heure. Là, il travaille sur un autre retable qui se trouve à Roubaix, Que voilà d'ailleurs. Et le centre de Vesoul est vraiment très spécialisé dans notamment la restauration des sculptures en bois, mais pas que, mais surtout en bois. Bref, Vesoul et Grenoble sont un peu deux des grands lieux, deux des grands laboratoires, travaillent là-dessus. Hein. Alors après, il y a pas mal de conservateurs, restaurateurs indépendants qui ont leur propre atelier et qui travaillent là-dessus. Hein. Mais vraiment, les deux grands lieux, c'est Vesoul et Grenoble. Et il y a deux lieux de formation. Alors, il y a un lieu de formation spécialisé dans la sculpture qui est Tours, à Tours, à l'école des Beaux-Arts de Tours. Il y a une spécialisation conservation, restauration, sculpture, hein, qui est très célèbre en France. Et puis, il y a à Saint-Denis, à côté de Paris, ce qu'on appelle l'Institut national du patrimoine, qui forme notamment des conservateurs-restaurateurs, et qui notamment forme des conservateurs-restaurateurs qui plus tard seront indépendants, hein, et qui pourront soit aller dans les ateliers, soit former leur propre atelier, notamment la restauration de la sculpture. Voilà qui vous donne une petite idée générale hein, de ce travail autour de la sculpture en France. Alors, pour terminer, pendant la petite demi-heure qui nous reste, je voulais proposer à votre sagacité quelques petits cas divers et variés. Un peu tous azimuts, toujours autour de la sculpture. Je voulais vous montrer ça et ça. Je vous montre ça et ça, vous allez me dire que je deviens un peu curieux, n'est-ce pas, de vous montrer des œuvres qui, a priori, sont en parfait état.
Mais elles ont été restaurées.
Restauration.
Ces œuvres, effectivement, sont en parfait état, mais elles ont été restaurées. Quand, par exemple, celle-là, à votre avis ?
On les prend
19e. Avant. Alors, notamment pour les nettoyer, mais pas que.
On lui a remis
les deux bras. En fait, l'œuvre que vous voyez là a été découverte à Arles au XVIIe siècle. Évidemment, on l'a découvert vers le milieu du XVIIe à Arles, dans le théâtre. Et évidemment, la donner à Louis XIV, parce qu'on n'allait pas faire autre chose. On découvre une sculpture à Arles, on l'offre à Louis XIV, on sait bien. D'ailleurs, elle a fini dans la galerie des glaces, quand même. Hein. Mais il n'y avait plus de bras, et ça, c'est pas possible. Hein. Donc, un sculpteur qui s'appelle Girardon a rajouté les bras. Et on fait quoi aujourd'hui ?
On laisse.
On laisse, on enlève ?
Non, on laisse.
On en
retire un. Il y en a deux, alors on en retire un.
Celui de gauche, il est
bizarre. On enlève celui de gauche.
Il est bizarre, celui-là.
Non, ça dépend peut-être de l'angle de...
Alors, en fait, ça représente... Alors, cette sculpture, donc elle a été trouvée, c'est une sculpture romaine, hein, voilà, mais qui n'est pas tout à fait romaine. Enfin, vous, certains d'entre vous, ont suivi peut-être les cours autour de la sculpture antique.
Oui, oui.
Ça vous dirait quelque chose, ça ?
Oui, oui, on l'a vu, oui. Avec la pomme.
Ouais. Parce qu'en fait, est-ce que c'est une sculpture romaine de chez romaine, si j'ose dire ?
Non, c'est une copie.
Voilà. C'est une copie romaine d'après un original grec du 4e siècle avant Jésus-Christ. Hein, voilà. Sans doute de Praxitèle, d'ailleurs. Hein. Et qui représente qui ? C'est Vénus. Autrement dit, en grec,
Aphrodite.
Hein. Donc c'est Aphrodite. Elle tient effectivement une pomme à droite. Et à gauche, elle était censée tenir quoi ? Comme la Castafiore.
Un miroir.
Ah, ouais. Elle se trouve tellement belle. Voilà. Alors, l'idée est effectivement, plutôt dans ce genre d'œuvre, de garder les restaurations quand elles sont anciennes. Hein. Girardon, qui est aussi un grand sculpteur, hein, oui. A rajouté les bras, ben on lui laisse ses bras. Hein. Et alors là ?
Ça a été repeint ?
Pire que ça, si j'ose dire. Entre guillemets, pire. Hein.
On a rajouté le vêtement, non ?
On a rajouté le vêtement ?
Non. Mais quand il fait bizarre, ce vêtement.
C'est étrange, hein.
Mais alors, son bras gauche, est-ce que c'est pas, je dis peut-être une horreur, est-ce que c'est pas un buste qu'on a complètement complété ?
C'est assez ça. C'est-à-dire que, un buste...
Parce qu'on a l'impression que c'est de son côté gauche, que c'est un...
C'est pas sûr.
Alors, en fait, ce qu'il y a, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'on avait ça. Ça existait. On avait. Et on a antique. C'est-à-dire que le drapé est antique, si vous voulez. Hein, peut-être pas ce drapé-là qui me paraît bizarre, mais ça, oui, on avait. Simplement, bah, c'était un peu court, quoi. Donc on a rajouté tous les éléments, la tête du mort, hein, les deux bras, les jambes, etc. Et puis on a rajouté toutes ces verroteries pour... Et ça a été fait à Rome, fin 16e, début du 17e siècle, hein, à partir donc d'un morceau de statue antique, hein, sans doute en albâtre, hein, assez chic, si vous voulez, hein, encore plus que le marbre. Donc on a rajouté des éléments pour... ajouter encore de la préciosité à la sculpture, si vous voulez.
Elle était noire à l'origine, non ?
Alors, non, la robe était déjà comme ça, hein, et on a rajouté des éléments en pierre noire polie, en marbre noir poli, pour donner à cette figure, qui était peut-être d'ailleurs une femme à l'origine, je ne sais pas, hein, parce que peut-être pas quand même. Parce que, voilà. Ouais, mais en rajoutant tous les éléments noirs, on a fait d'une sculpture qui présentait, on ne sait pas qui ni quoi, un mort. D'accord. Donc d'antique, il n'y a que la toge, si vous voulez, et le reste a été rajouté sans doute fin 16e, début du 17e siècle. On adorait à cette époque faire ce genre de choses. Il appartient à la famille Borghese, hein, ça a été acheté par Napoléon, c'est aujourd'hui au Louvre. Hein, et on adorait ce genre de choses, c'est-à-dire des choses, une espèce de puzzle de pierres, entre guillemets, semi-précieuses, vous voyez ce que je veux dire, du marbre, de l'albâtre. Il y a même du lapis lazuli quand même, hein, c'est chic.
Quelle est la nature de la colle, enfin,
Ah, ça, je peux pas vous lire. Oh, mais on trouve des choses, on fait des choses très bien pour coller tout ça. On goujonnait sans doute aussi. Hein. Il n'y a pas que de la colle. Hein. C'était aussi goujonné, certainement. Ouais. Voilà. Donc, la Vénus en question, hein, l'Aphrodite dite Vénus d'Arles. On a un moulage qui a été fait avant qu'elle soit complétée. Hein. Vous la voyez là. Hein. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, c'est assez respectueux aussi. Et donc, voilà le fameux mort Borghese, hein, qui est en partie antique, en partie du XVIIe siècle. Deuxième chose que je voulais vous proposer... Quid ?
Ah, mais c'est la armature de la radio. Pour rien en vite, on arrive à voir l'armature.
Voilà. Voilà. On a effectivement ici une radio, hein, qui nous montre l'intérieur d'une sculpture. Une sculpture qui d'abord peut-être représente quoi ? Qui ensuite peut-être date de quand ? Qui peut-être aussi a été faite par qui ? Et qui enfin est en quelle matière ? Ça en fait des questions. Hein.
Alors, pas en pierre.
Pas en pierre.
Parce que la radiographie, ça ne marcherait pas. Ça ne
marcherait pas. Pas en plâtre.
Ça peut être en plâtre.
Plâtre, bois.
Ah ben, le bois, c'est difficile d'introduire du bois là autour. Hein.
Plâtre.
Plâtre.
Plâtre paraît pas
plâtre.
Mal.
Oui, oui.
Donc ce serait une sculpture en plâtre avec une armature en...
En fer.
En métal, en tout cas. En métal.
Acier, peut-être.
Quelle époque, peut-être ? Vous allez me dire, c'est bien gentil, une radio...
Au 18e, on a fait des tas de trucs avec armature.
Oui. Donc 18e, peut-être ?
Peut-être.
Donc, une sculpture en bois.
En bois.
Non, pas en bois, pardon, en plâtre. En plâtre, avec armature, peut-être bien du 18e. Ça vous va, ça ? Et qui représenterait quoi ?
Je veux dire que, vraiment... C'est bizarre.
C'est bizarre.
Il y a un chapelet, non ?
Ah ! Oui ? Mais c'est lui. Celui qui se fait manger son foie.
Ah oui.
Qui est enchaîné.
C'est un oiseau, alors, à gauche.
Eh oui.
Eh oui.
Ouais.
Eh oui.
C'est un vautour.
Un vautour. Qui est-ce qui se fait manger son foie comme ça ? Prométhée.
Prométhée.
Hein, voilà. C'est donc Prométhée. Qui est, parce qu'il a fait des choses très mauvaises, notamment il a volé le feu des dieux. Ça ne se fait pas du tout. Hein. Donc on l'a enchaîné, enfin Jupiter l'a enchaîné, hein, et régulièrement un oiseau venait lui ouvrir le flanc, lui manger son foie qui repoussait, l'oiseau revenait, lui remangeait, enfin voilà, c'était son supplice éternel. Voilà. Hein. Et donc c'est Prométhée. Donc on a effectivement la radiographie d'une sculpture figurant Prométhée. Vous avez une idée de la taille ? assez grand, hein.
Oui.
On aurait pu 1m60 ou quelque chose comme ça. Eh bien non. C'est tout petit. Et c'est pas du plâtre.
C'est quoi ?
Et c'est pas du 18e.
C'est tout faux.
C'est ça.
C'est une terre cuite ?
Terre cuite ?
Hein ? De l'argile ?
Argile ?
Bah oui, c'est de la terre.
Oh, bah alors.
C'est quoi ça ?
Ça serait une résine, un truc.
Une résine ?
Un truc synthétique ?
Un truc synthétique ?
C'est pas du bois ?
C'est pas du bois ?
Ah non.
Bah,
on
ne
sait pas de
mais c'est pas l'époque.
Eh
oui, on
ne
sait pas l'époque.
C'est peut-être pas 18e.
C'est peut-être récent. Hein.
Bah oui. C'est peut-être récent. Un petit plastique.
Un petit plastique.
Eh bien, c'est de la cire.
Ah oui.
On l'oublie souvent, mais c'est la cire est un grand matériau pour la sculpture. Hein.
Oui. Alors, est-ce que ça serait la préparation d'une forme de...
Alors, ça peut être. Là, en l'occurrence, cette œuvre, elle a été faite par un peintre que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Gustave Moreau. Vous connaissez Gustave Moreau, l'artiste symboliste, etc. Qui, d'ailleurs, a fait un tableau représentant Prométhée en chêne. Et très souvent, mais d'autres peintres ont fait ça, Nicolas Poussin faisait ça. Avant de faire une peinture, souvent, il faisait ses personnages en cire, pour s'inspirer, si vous voulez. Donc, ce genre de sculpture était vraisemblablement lié à la préparation des peintures qu'il réalisait. Avant de faire la peinture, il faisait les sculptures, si vous voulez. Et on pense qu'au bout d'un moment, il s'est un peu pris au jeu, qu'il trouvait que ses sculptures, alors qu'il était peintre, n'étaient pas si mal, et que peut-être il aurait voulu les tirer en bronze. Ça n'a jamais été fait, et on connaît de lui une quinzaine de cires, hein, mais qui n'ont jamais été tirées, mais qui par contre se retrouvent dans les peintures.
Mais ça peut se conserver comme ça.
Ah oui, ça se conserve très bien. Alors,
pas au soleil.
Ni au soleil, ni sur un radiateur. Hein. Mais si vous mettez ça, je dirais, dans des conditions normales, voilà. Certains endroits ont peut-être des petits Jésus en cire chez eux, par exemple. Hein.
Moi, j'ai une
tête. Et ben voilà. Hein. Donc ça se conserve. Si vous ne mettez pas ça dans des conditions... mais vous êtes conservateur-restaurateur, vous savez quoi faire. Hein. Hein, la conservation préventive, c'est votre affaire. Hein. Donc vous n'allez pas mettre votre truc en cire sur un radiateur, ni devant... fenêtre. Hein.
Donc c'est un sous-produit de l'apiculture.
En quelque sorte. Exactement. Voilà. Ok. Y en a d'autres exemples. Voilà un autre exemple d'une autre sculpture de Gustave Moreau, l'apparition, avec sa radiographie à gauche. Donc il y a des matériaux, évidemment la pierre non, mais il y a des matériaux qu'on peut radiographier. Bah, quand on peut, c'est bien utile. Hein. D'accord. Alors, une autre, un ou deux trucs encore. Voilà deux choses. De quoi s'agit-il ? Là aussi, quelle époque, quel pays ? Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus ?
On est toujours en bois ou pas ?
À votre avis ?
Parce que ça fait penser à de la céramique, mais...
Oui, ça ressemble.
Alors, votre verdict ? Bois, céramique ? Céramique, c'est de la céramique. C'est de la céramique. C'est de la terre cuite glaçurée, précisément. Hein, une sorte de faïence. Si on... C'est bizarre. Alors, ça a été fait quand et où, ça ? Qui est-ce qui a pu faire ce genre de truc ?
Alors,
deux trucs différents ?
Alors, c'est deux choses différentes, effectivement. Ce sont deux figures.
En Italie, il y avait deux frères qui ont fait beaucoup de choses, mais pas tout à presque de ces couleurs-là. Et au... 17e, je pense, je ne suis plus très sûre, et je ne peux plus trouver leur nom.
Della.
Oui.
Della Robbia.
Della Robbia.
Della Robbia.
Il y avait toujours, presque toujours du jaune et du vert.
Souvent.
Et avec souvent dans des médaillons.
Oui, souvent.
Il y a un hôpital qui était complètement garni de ça.
De petits médaillons avec des petits enfants, l'hôpital des enfants, des innocents.
Voilà.
Degli innocenti. Innocenti.
Oui.
Hein, c'est ça, les italianistes. Voilà. Oui, oui. Donc, il y a eu effectivement en Italie, mais plutôt, hein, 15-16e, une famille, celle des Della Robbia. Il y en a deux qui sont célèbres, Luca Della Robbia et puis un autre dont le nom est Andrea Della Robbia. Mais il y a eu d'autres membres de la famille, et puis un atelier très important. Ils ont réalisé de très, très nombreuses terres cuites émaillées comme ça, très rutilantes, hein, vous voyez comme c'est rutilant. Et alors, celle-là représente quoi, ces terres cuites émaillées?
Un ange.
Un ange? Un seul?
Non.
Deux.
Alors, justement, parce que imaginez-vous que vous autres, conservateurs, restaurateurs, en l'occurrence spécialisés en terres cuites, vous venez les restaurer.
Bah, les ailes.
Quel a été votre parti pris de restauration? Parce que ces anges, quand ils sont arrivés, n'étaient pas dans cet état. D'ailleurs, tout à l'heure, je montrerai le détail d'un saison avant restauration. Vous allez voir, hein, il y a la différence. Hein. Qu'est-ce que vous avez? Quel a été votre parti dans la restauration de ces deux œuvres?
On remet un peu de peinture.
Est-ce qu'on remet de la peinture?
Oui.
Non.
Oui, on peut.
On peut? Regardez bien.
Non, parce que c'est émaillé.
C'est émaillé.
C'est
émaillé. Donc, non. Alors, on peut le faire sur des ondes qui ne sont pas émaillées. Vous voyez que les chairs ne le sont pas. Hein. Voilà. Elles étaient d'ailleurs autrefois, à l'époque des Della Robbia, un peu justement couvertes de petits éléments peints. Par exemple, les joues étaient sans doute un peu couvertes de rouge, etc. Hein. Le problème, c'est que tout ça a disparu pour des raisons que j'évoquerai après.
On a l'impression que les mains ont été restaurées.
Non, en fait, c'est sans doute des éléments qui ont été, à l'époque de la réalisation, rapportés. Donc on voit, oui, vous voyez, le,
structure,
voilà, le fait que c'est rapporté. Quoi. Hein, voilà.
Et les pieds sont...
Les pieds,
oui.
On en a recollé un à
je crois que ça, je crois que c'est la sandale que l'on voit, mais je ne suis pas sûr.
C'est la sandale.
Non, pas sûr. Non, c'est peut-être la fissure, parce qu'il n'y en a pas de l'autre côté. C'est peut-être une fissure, vous avez raison. Par contre, il y a des choses, moi, qui m'interrogent, vous voyez. Autrement dit, quel a été votre parti pris de restauration? C'est de laisser. Vous le voyez au niveau des pieds, vous le voyez au niveau d'autres choses, très visible.
De l'aile.
De l'aile. Parce que lui, il a son aile, mais lui, il ne l'a pas. Or, il l'avait sûrement. Donc là, elle est cassée, si vous voulez. Bon, on l'a pas remis. Ce qu'on pourrait se dire, c'est un ange, c'est deux anges, de toute façon. Hein. Des anges qui servaient à quoi, d'ailleurs?
Oh, souvent des... pour des lustres, pas des lustres. Des...
Oui. Donc des anges, luminaires. Comment est-ce qu'on a appelé ça tout à l'heure?
Séroféraire.
D'ailleurs, ça, c'est la base d'un cierge qui se plantait là-dedans. Il y a autre chose qui montre également que votre parti pris a été, sans doute, de nettoyer, de remettre en état, etc., mais de garder l'état avec les problèmes. C'est quoi? Les collages qui ne sont pas dissimulés, effectivement, par exemple aux mains. Et puis il y a autre chose.
Il y a quelque chose qui est...
De laisser,
oui, de laisser les
éclats. Les éclats. Les éclats, vous voyez, là c'était bleu. Hein. Ça claquait. Ben, l'idée n'a pas été de repeinturlurer. Hein. On aurait pu. Hein. Ben, là, le parti pris a été de laisser ça tel quel.
Mais, est-ce qu'il n'y a pas eu une restauration, par exemple, le pied droit, là, on voit deux orteils qui sont énormes, qui paraissent complètement...
Oh, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y en avait, parce que deux, il y en avait un troisième là. Celui-là a l'air gros parce qu'il y a un morceau de l'autre d'à côté, je pense. Voilà. Voilà. Alors, bon, voilà une photo avant et après restauration. Hein. Vous avez un ange avant, l'autre ange après. Hein. Donc, ça aussi, c'est parce que, il fut un temps, on ne pouvait pas du tout imaginer qu'au Moyen-Âge, ce soit si rutilant. Même coup que pour Rennes tout à l'heure. Si vous voulez. Alors, on vous a juté tout ça. On a d'ailleurs, en jutant, éliminé les petites... parce que les chats étaient moins blêmes. Il y avait encore une fois un peu de peinture, pour le coup, qui était mis pour rendre les chairs un peu plus rosées, si vous voulez. Alors, on vous a juté tout ça. Évidemment, tout ce qui était peint a disparu.
S'il tenait un cierge, en plus...
Oui, en plus. En plus, ça n'a pas dû aider. Hein. Voilà. Donc, atelier d'Aidé de la Robbia, hein, fin 15, début 16e. Encore deux petites choses. Ça, c'est quoi?
Les pièces détachées.
Des bouts.
Ah, vous êtes conservateur-restaurateur, quelquefois, vous avez des trucs. Hein.
Des bouts et sans couleur.
Des bouts sans couleur. C'est en quoi, ça? Et c'est de quand?
En plâtre.
C'est en plâtre. C'est du plâtre.
Ça fait penser à de l'archéologie. On trouve les
ça fait penser à de l'archéologie, mais de l'archéologie en plâtre, vous me direz, ça peut exister. Hein.
Non, mais les fragments qu'on pourrait trouver.
Oui, oui. Mais effectivement, il s'agit de fragments nombreux, hein, d'une sculpture en plâtre. Avez-vous cette sculpture en plâtre un peu cassée, hein. Vous la dateriez de quand?
19e,
oui. Oui, c'est une sculpture du 19e, même fin 19e. Hein. une idée de ce que ça pouvait représenter.
Il y a une lyre.
Il y a une lyre.
Cassée, mais enfin.
Cassée. Autrement dit, on a une lyre, et puis au milieu, qu'est-ce qu'on voit ?
Il y a des manches. Oui, une femme.
Une femme, une lyre. Il y a des chances que la lyre soit la lyre de la femme.
Il y a
peut conjecturer ça.
Des chutes de fleurs.
Des chutes de fleurs, des tas de bouts de fleurs.
C'est une muse.
Une femme, ah, ça pourrait être une muse. Ça pourrait être une muse. Hein. Ça pourrait être aussi une grande poétesse qui s'aidait de sa lyre pour chanter. Possible, ça. Vous connaissez une grande poétesse antique ? La grande poétesse ? Sappho. Sappho, la grande poétesse antique. C'est une sculpture représentant Sappho. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
La chute.
Elle a sans doute su.
Il y a son socle.
Ouais, il y a son socle qui est encore là, à gauche, là. Et puis peut-être il y a eu un autre problème. C'est du plâtre. Hein. Peut-être. Elle a sans doute pris l'eau. Humidité. Alors humidité et plâtre. Pourquoi notamment ? Le problème c'est quoi ? Voilà, l'armature. Ce qu'on va dire du plâtre, c'est comme la scie, elle a des armatures. Et les armatures, évidemment, s'il y a de l'humidité,
ça rouille.
Voilà, ça rouille, donc ça grossit, donc ça claque, et le plâtre explose. Alors on parlait d'un cadeau, hein, c'est compliqué quand même. Hein. Et puis il y a pourquoi est-ce que c'est tout à fait un hasard que cette sculpture en plâtre soit dans un tel état ? Parce que je vais montrer des sculptures en pierre, des sculptures en bois, c'est pas toujours dans un état formidable. Mais enfin là.
Ah ben on a peut-être voulu la massacrer aussi. Ah
vraiment, on a l'impression.
Elle a été mutilée. Ouais.
Ça serait du vandalisme.
Pardon. Oui, on pourrait penser du vandalisme, effectivement. Et c'est possible d'ailleurs. Et ce vandalisme, il vient de quoi, à votre avis ? Alors, peut-être de ce que véhicule Sappho, mais je pense que beaucoup de gens qui voyaient ça pensaient même pas à Sappho et savaient même pas que c'était Sappho, ni qui était Sappho. Il y a donc peut-être une autre raison.
Un côté
luxure. Ah, le côté un peu lascif de cette femme. Oui, ça, c'est peut-être, ça en a peut-être choqué plus d'un.
Alors, elle était remisée dans une cave.
Alors, vraisemblablement, c'était. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait remisé ce pauvre plâtre dans une cave ?
Ça ne fallait pas la voir.
Vous voulez pas la voir ?
Cacher sa faux que je ne sais pas.
Le gros problème, c'est que pendant très très longtemps, on a absolument mis de côté tous ces plâtres du 19e siècle. Parce qu'on trouvait que ces plâtres, c'était du plâtre, justement. Et on se disait, mais ces plâtres, non, c'est du plâtre. C'est le plâtre, c'est ça, ça c'est du plâtre, là. Le mur.
Oui, mais c'était les ébauches.
Et voilà. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on se disait, oh, c'est du plâtre. Quelquefois, même on confondait plâtre et moulage. C'était du plâtre, donc c'était un moulage. C'est des moulages, vous en voyez. Il y a des boutiques de décoration où on vend des moulages en plâtre, de tout ce qu'on veut. Quoi, hein. On se dit, oh, bon, c'est moulage sans intérêt. C'est du plâtre, ça n'a pas de valeur. Et en plus, c'est des moulages. Donc, on vous fourre ça à la cave, ça prend l'humidité, les trucs claquent, et voilà le résultat. Il suffit que trois andouilles s'y mettent, et puis ils vous bousillent ça, et voilà dans quel état c'est. Cette sculpture a été, je crois, en plus de 150 morceaux. Elle a été restaurée, mais le gros problème, c'est décidément que les sculptures en plâtre ont été souvent mal vues. Et c'est dommage que souvent, ce sont les originaux.
Ben oui, parce
quand
que
vous voyez le baiser de Rodin en marbre, c'est pas Rodin qui l'a sculpté. Ce qu'il a plutôt fait, lui, c'est l'esquisse en plâtre avant, si vous voulez. Souvent, en fait, les sculpteurs faisaient l'œuvre en plâtre et après la donnaient à un praticien qui, eux, réalisait la sculpture en marbre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, souvent, on a mis à la cave, de côté, à l'humidité, etc., les originaux, alors que les marbres, qui sont évidemment quelque part des originaux, parce qu'ils ont été faits par des praticiens, mais d'après l'œuvre, hein, voilà, hein, sont en quelque sorte pas tout à fait des originaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, il y a eu pendant longtemps une espèce d'erreur de parallaxe, où parce que le plâtre, c'est du plâtre, et que c'est commun, ça vaut rien, un sac de plâtre, hein, on les considérait moins bien que les œuvres elles-mêmes. Et voilà le résultat. Alors, je vous montre simplement, je crois que c'est la dernière œuvre, de toute façon. Voilà, c'est d'un certain rôle Verlet, ça représente Sappho, ou le chant. C'est amusant parce que c'est le plâtre original pour une sculpture qui est à l'entrée de l'opéra de Rio de Janeiro. Si vous allez à Rio de Janeiro, ce que vous ferez sûrement très vite, vous verrez dans l'entrée la sculpture définitive de Verlet. Alors voilà, à quoi elle ressemble. Alors voilà à quoi elle ressemble maintenant, une fois restaurée. Alors voilà à quoi elle ressemblait autrefois, hein, avant tous les problèmes. Voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Il y a eu du boulot, hein. Donc c'est quand même. Alors c'est pas parfait puisqu'il manque des choses, mais vous voyez, on n'a pas restitué le bras manquant qui a dû disparaître. Enfin, c'est mieux que ça. Une petite chose, on n'a pas du tout parlé durant cette heure, si on n'a pas eu le temps, la question des sculptures en extérieur. Là, je vois une sculpture de Vaux-le-Vicomte, avant et après. Alors là, il se pose évidemment des comptes et problèmes, mais qu'on a finalement quand même un peu évoqué avec le bois, avec les insectes xylophages. Mmh. Sauf que là, c'est évidemment des problèmes autres. C'est la végétation qui se met dessus, la mousse, etc. Tout le problème de la sculpture extérieure. Et pour terminer tout à fait, je voulais vous montrer une dernière chose, que je crois d'ailleurs que je vous ai peut-être déjà montré ailleurs, mais on va voir. C'est ça. C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
C'est de l'os.
De l'os ?
Non.
Parce que le bras gauche, on dirait que
C'est poreux. Alors, ce serait donc... quand vous disiez de l'os, ce serait tout en os ?
Non, que la statue.
Que la statue.
Même pas. Je parlais de la statue.
Non, mais
et ça ? Ça, c'est quoi, d'ailleurs ?
De la cire.
La cire. Donc on a de la cire et de l'os.
Non, c'est du bois.
Non. Du bois.
Et du
métal.
Non.
Ah, un petit métal, un petit cuivre, là.
Une céramique.
Céramique, papier mâché. Bon, je crois que j'aurais eu le catalogue de tous les possibles. Alors, c'est quoi cette chose ? Vous avez bien vu qu'il y avait deux matériaux. Pour tout vous dire, en haut, c'est du plâtre, en bas, c'est de la terre cuite. En bas, vous avez un vase. Et au-dessus, un plâtre. Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est quoi cette histoire ?
On a forcé.
Pardon ? Oui, on a rentré l'un dans l'autre. Qu'est-ce que... Ça vous suggère quoi, ça ?
Le diable qui sort de sa boîte.
Ouais. Mais l'un était fait pour l'autre ?
Non.
Il n'y avait plus de jambes pour le tenir.
Voilà. Il n'y avait pas de jambes, donc il l'a mis là-dedans pour que ça tienne. Voilà. Hein ? Bon, quand on vous donne ça pour restaurer, vous faites quoi ?
Ben on essaie de séparer les deux.
On enlève le truc et puis voilà. Hein ?
Non, c'est intéressant.
C'est intéressant ? C'est quoi d'intéressant ? Pardon ?
Ça fait une maternité.
Une sorte de maternité qui sort comme ça de son puits ?
Non, la vérité.
La vérité qui sort du puits ? Alors, on laisse comme ça ou on déchasse l'un de l'autre ?
Bon, on essaie de retrouver l'historique, déjà.
On essaie de retrouver l'historique, parce que...
Hein, deux écoles.
Ouais. Alors, puisqu'il est 7 heures, je vous dis quand même ce dont il s'agit. Mm-hmm. En fait, ce que vous voyez là, c'est une œuvre de Rodin. Parce que Rodin est le sculpteur, vous savez, mais il avait une énorme collection d'antiques. Hein, oui. D'ailleurs, si vous allez au musée Rodin aujourd'hui, vous verrez des tas d'objets antiques qu'il a collectionnés. Ils sont mélangés à ses sculptures. Et il avait une chose très curieuse, c'est qu'il a pioché parfois dans ses collections d'antiques, notamment il y avait beaucoup de vases antiques, et il a mêlé des vases antiques, là en l'occurrence, ça c'est un vase antique, hein, et puis c'est lui qui l'a fait, une statuette qu'il avait lui-même réalisée. Donc en fait, c'est effectivement volontaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que vous voyez là, c'est un assemblage fait par Rodin volontairement. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, parce que quelquefois, vous voyez, il y a des faux amis, entre guillemets. Hein, parce qu'on se dirait assez légitimement, bah, voilà un vase antique, voilà une sculpture en l'air, on enlève l'un de l'autre. Quoi, enfin, voilà. Or non, parce que, voilà, bah, c'est très étrange, vous voyez. En fait, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Quoi. Mais c'est vrai que c'est très curieux, c'est très très bizarre. Et on se dirait, a priori... Bah, faut enlever l'un de l'autre, quoi, parce que c'est... Non, c'est une volonté de Rodin. Il a fait comme ça, il y a toute une série de choses comme ça. Il a assemblé des éléments antiques et des éléments faits par lui.
D'où l'intérêt de connaître l'histoire.
Voilà, pardon.
D'où l'intérêt de connaître
l'histoire. Voilà, absolument. Oui, vous disiez, pardon.
C'est du surréalisme.
En quelque sorte. Avant l'heure, d'ailleurs. Avant l'heure. Alors là, je vous montre celle-ci, mais il y en aurait d'autres, il y en a un fait d'autres. Hein. Mais ça donne des choses effectivement très curieuses, où le but est une espèce d'association de choses qui n'ont pas fait pour aller ensemble, mais qui créent un truc un peu surréaliste, d'une certaine manière, sauf qu'on est en... Oui, c'est pas grand, hein. C'est grand comme ça. Quoi. Alors, on est vers 1900, donc surréalisme n'est pas encore là, mais ça va pas tarder. Quoi.
La prémisse.
Voilà. Voilà, je voulais terminer par ça, parce que c'est un objet très étrange, et nous nous retrouvons dans une...